Maurice Merleau-Ponty n'a jamais perdu de vue un fait essentiel. La conscience ne se tient pas à l'écart du monde. Elle n'est pas pure spectatrice retirée dans sa bulle, mais elle se mêle à ce qui n'est pas elle, et les lignes de partage s'estompent. Il n'y a pas d'un côté le sujet et de l'autre l'objet. Il n'y a pas d'un côté l'esprit et de l'autre le corps. Je suis un être incarné, et c'est dans cette mesure que j'entre en contact avec les choses, que je peux les saisir, les percevoir. C'est également ce qui me rapproche d'autrui, parce que je reconnais dans cet autre corps une manière familière de traiter le monde, parce que lui aussi perçoit ce que je perçois, parce que je découvre en lui comme le prolongement de mes propres intentions. Même si Merleau-Ponty s'est d'abord inspiré des travaux de Husserl et de certains psychologues, il ne pouvait manquer de rencontrer d'autres pensées qui, malgré différents points de départ et préoccupations, ont tenté de rompre l'isolement de la conscience, dissipant par là quelques illusions. Archive INA, 1959. Maurice Merleau-Ponty est interrogé par Georges Charbonnier.
Ce que la psychanalyse peut nous apporter en fait de connaissance de l'homme, elle a fait comprendre quantité de choses, ou en tout cas, elle nous a donné un sentiment, et plus qu'un sentiment, une vue de relation entre éléments de la conduite de l'homme que l'on n'avait pas soupçonné auparavant.
En pouvez-vous donner des exemples précis?
Vous savez, il faudrait réfléchir à tout ça et faire un véritable... Ce n'est pas un véritable exposé que je peux faire pour répondre à une question impromptue. Parce que je ne sais pas si je vais aller droit à ce qui m'intéresse moi-même le plus dans l'analyse. Ce ne sont pas des idées comme l'idée d'inconscient. Ça, éliminons, si vous voulez. L'idée d'inconscient est une de celles qui ont le plus été mises en évidence dans les débuts de l'analyse. Je ne suis pas du tout philosophiquement contre l'inconscient, c'est-à-dire je ne crois pas, comme certains philosophes l'ont dit, que la notion d'inconscient soit purement et simplement contradictoire. Mais ça ne me paraît, c'est pas ça qui me paraît l'essentiel dans l'analyse, dans l'apport de la psychanalyse. Ce qui me paraît l'essentiel, c'est peut-être la relation avec les autres, telle que l'analyse nous l'a décrit. Voyez-vous, cette idée que notre relation avec les autres, enfin les analystes disent que dans nos relations avec les autres, il y a constamment projection et introjection, c'est-à-dire que je place en moi-même, en quelque sorte, un individu auquel je suis attaché, naturellement, il faut qu'il y ait un attachement vrai. Et je le mets en moi-même, il devient partie de moi-même, et inversement d'ailleurs, la connaissance que j'ai de lui est tout entière tissée ou tissue de ma propre substance, de ma propre vie. Voyez-vous, je crois que le jour où Freud a introduit ces notions de projection et introjection, il a introduit quelque chose qui n'était pas absolument neuf, mais qui n'avait jamais été dit avec cette force. Parce que si l'on n'utilise pas, si l'on n'use pas de ces notions, on a des sujets qui sont l'un en face de l'autre, avec des limites tranchées, pas, il y a vous et il y a moi. Nous sommes deux consciences, comme on disait dans la philosophie, mon Dieu, depuis Kant, tout le monde emploie ce terme, nous sommes deux consciences, et il n'y a pas de lien d'être, en quelque sorte, entre nous. Nous sommes deux univers absolument distincts et absolument clos, ce qui a sa vérité, mais ce qui n'empêche que, dans le fait, quand je suis en relation avec quelqu'un, en relation affective, d'amitié, d'amour, ou d'attachement en général, ce n'est pas seulement ce rapport-là, ce rapport de conscience qui existe. C'est un tout autre rapport qui fait que ma personnalité, je ne peux pas la définir entièrement en dehors des vues que les autres ont sur moi et que je devine à travers leur regard et leur conduite. Et de même qu'eux, ils sont faits de ma substance. Eh bien, tout ce que Freud a fait, alors toutes les analyses, enfin, nous parlions tout à l'heure de la notion de surmoi, cette idée, il y a mon moi volontaire, il y a mon moi involontaire, l'ensemble, ce qu'on appelle quelquefois les instincts. Il y a le moi volontaire, c'est-à-dire l'appareil perception-conscience, comme dit Freud, c'est-à-dire au fond ce qu'on appelle d'habitude la personnalité, ce que nous saisissons clairement de nous-mêmes à mesure que notre vie se déroule. Alors, il y a en arrière de cela donc, le moi instinctif, et il y a en avant de cela le surmoi. Le surmoi qui est un idéal, enfin, et qui est comme un principe de sélection, pour moi, qui joue le rôle d'un principe de sélection à l'égard de certains aspects du monde auxquels je m'intéresse de façon privilégiée, tandis que les autres sont laissés en fond, enfin, ne sont pas mis en relief. Eh bien, une analyse comme celle-là, voyez-vous, avec, en somme, la pluralité à l'intérieur du moi, c'est elle qui me fait comprendre comment mes relations avec autrui peuvent être aussi étroites que je le disais tout à l'heure. Car si le moi était simple, eh bien, il serait tout d'une pièce, pour ainsi dire, et l'autre serait en face de lui, comme un autre monde tout à fait étranger. Mais si le moi a cette espèce de multiplicité interne, alors l'autre peut s'introduire en lui par ce biais. Le surmoi, par exemple, c'est d'ordinaire l'image du père intériorisé, c'est-à-dire c'est un autre qui est devenu moi. Alors toute cette description des rapports du moi et d'autrui me paraît quelque chose de définitivement acquis, pour ainsi dire.
En réalité, il n'y a ni moi ni autrui comme positif, subjectivité positive. Ce sont deux antres, deux ouvertures, deux scènes où il va se passer quelque chose et qui appartiennent toutes deux au même monde, à la scène de l'être. Il n'y a pas le pour soi et le pour autrui, ils sont l'autre côté l'un de l'autre. C'est pourquoi ils s'incorporent l'un l'autre, projection, introjection. Il y a cette ligne, cette surface frontière, à quelques distances devant moi, où se fait le virement moi-autrui, autrui-moi.
Le visible et l'invisible.
L'auto-analyse, l'analyse de soi-même, pourrait se substituer à la psychanalyse au sens classique si la psychanalyse au sens classique n'était pas essentiellement mise en relation avec un individu, le médecin, l'analyste. Un individu qui, pour être silencieux, n'en joue pas moins un rôle dans l'analyse elle-même. Car tous les conflits que l'individu a traversés dans son passé, conflits que l'on suppose non résolus, puisque justement c'est ça qui le rend malade, ces conflits, il les transporte, il les transcrit, il les transfigure, et il les applique finalement à la personne de l'analyste, qui devient, tout en étant un personnage silencieux, hors de la vie, une sorte de pôle de sa vie présente. Voyez-vous ce que je veux dire? Par conséquent, ce rôle-là ne peut pas être joué par un objet, par un miroir, supposons. Ce rôle-là ne peut être joué que par quelqu'un. Il faut quelqu'un d'autre qui écoute ces paroles que prononce l'analysé. Et une psychanalyse ne consiste pas pour l'analyser simplement à se connaître soi-même, mais à se changer par la relation très spéciale qui s'établit entre lui et le médecin analyste, et au cours de laquelle il transfère, comme on dit, sur ce médecin analyste tous les conflits non résolus que la vie a laissés en lui. Voyez-vous ? Alors ça, c'est une raison majeure pour laquelle il ne peut pas y avoir, dans le même sens du mot auto-analyse, il ne peut pas y avoir, par le moyen de l'auto-analyse, des résultats comparables à ceux que donne la psychanalyse. Enfin, après tout, on peut déduire cela d'une remarque bien simple sur la différence qu'il y a entre ce que nous savons de nous-mêmes et ce que les autres savent de nous. En un sens, vous me connaissez beaucoup plus mal que je ne me connais, mais en un autre sens aussi, vous me connaissez beaucoup mieux. En tout cas, vous me connaissez autrement. Alors, autrement. Et c'est cette autre perspective, justement, qui, lorsque le malade finit par se l'incorporer, se l'assimiler, le libère de son tête-à-tête avec lui-même et l'ouvre à des possibilités qui lui étaient fermées par la névrose. Voyez-vous, je crois, voilà schématiquement ce que l'on dirait pour distinguer psychanalyse et analyse de soi-même. Alors, il y a évidemment des gens qui ont bien été obligés de s'analyser eux-mêmes. Il y en a un, en tout cas, c'est Freud, car il a bien fallu commencer, et lui n'avait pas derrière lui de maître à qui il puisse s'adresser pour subir une analyse. Vous savez que tous les psychanalystes commencent par être analysés. Freud, lui, était un analyste, ou l'analyste, qui n'a pas été analysé. Ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes intéressants, et on a récemment consacré un jeune psychologue et philosophe a consacré une thèse de doctorat à ce problème de l'auto-analyse. Je vous disais que les psychanalystes orthodoxes excluent l'idée de l'auto-analyse, mais ils sont bien obligés de l'admettre en ce qui concerne Freud. Alors, Cela pose pour eux une question très intéressante. Comment Freud a-t-il pu jouer envers lui-même le rôle que l'analyste joue envers un patient extérieur?
Archives, 1959.
L'homme n'est pas isolé. Non seulement la communication va pouvoir s'établir, mais elle est établie.
Oui, elle est préalable, elle
Alors
est primordiale.
Que penser du thème si courant, non seulement dans la littérature contemporaine, mais en remontant assez loin, que la communication ne peut pas s'établir entre les êtres?
Eh bien, elle s'établit. C'est là que la notion d'inconscient a sa valeur. Oui, elle existe, cette communication, mais elle n'est pas au clair avec elle-même. Nous ne nous en rendons pas compte, n'est-ce pas? Tout ce que nous venons de dire à l'instant, tout ce que Freud a écrit sur le surmoi, sur le ça, c'est-à-dire le moi des instincts, et sur le moi, tout cela existait avant que Freud en ait parlé, mais enfin, nous ne le savions pas, en tout cas avec cette clarté, avec cette netteté. Ce qui fait qu'on peut dire que la communication est primordiale. Depuis son premier souffle, un enfant entre dans un réseau. Seulement, en même temps, cette communication se fait dans l'obscurité. L'enfant ne s'aperçoit pas lui-même des relations, très précisément des relations qu'il a avec les autres. Par exemple, dans la constellation familiale, n'est-ce pas ? Il sent très vaguement, supposons, un fils sent qu'il n'aime pas sa sœur, ou au contraire qu'il aime sa sœur, qu'il n'aime pas son frère aîné, ou au contraire qu'il l'aime. Il a telle ou telle préférence pour l'un des deux parents, mais tout ça reste fort confus. Alors la communication est à la fois tout à fait première, elle se fait dès le début de la vie, mais elle se fait dans des conditions d'obscurité telles que l'individu très souvent, justement, n'arrive pas à liquider tout cela. Il y a là des conflits qui se créent peu à peu, et ces conflits se multiplient, car du fait qu'un conflit a eu lieu, si rien n'intervient, il tente à se reproduire, et on arrive finalement chez l'adulte à une forme de vie cristallisée, qui est le résultat de tous ces événements antérieurs dont on ne peut pas dire qu'ils soient conscients, au sens du moins où l'analyste finira par en avoir conscience, lui.
Mais alors, que penser d'une époque où un des thèmes favoris de la littérature, là j'y reviens, c'est l'impossibilité de communiquer? Rien ne me frappe autant que... vraiment dans le roman, dans la poésie contemporaine, que c'est noir sur blanc partout. L'homme ne communique pas avec l'homme.
Mais vous savez, la psychanalyse admet dans un sens la solitude radicale, parce que les psychanalystes, pour être psychanalyste, on n'en est pas moins obligé de reconnaître que chacun a son théâtre intérieur, que chacun a son réduit. Quand je me brûle, c'est moi qui me brûle et non pas vous. Et jamais vous ne saurez ce que c'est que cette brûlure, cette douleur physique. Maintenant, il y a aussi le langage, il y a aussi la communication. Alors, cette communication ne supprime jamais, la solitude au sens métaphysique, la solitude au sens de mon inhérence à moi-même. Ne la supprime pas. Seulement, l'inhérence à soi-même est aussi... Il y a un mode normal et un mode pathologique de l'inhérence à soi-même. Toute cette description que Freud donne... Elle est susceptible de... cette description de l'appareil psychique, comme il dit, elle est susceptible de donner lieu ou à un fonctionnement relativement intégré, ou à un fonctionnement très imparfait, très discordant. Alors, dans le premier cas, vous avez ce qu'on appelle l'individu sain, et dans l'autre, ce qu'on appelle le malade. Mais le freudisme ne nie pas l'existence de la difficulté de la communication, puisque justement, les malades qui... sont justiciables de l'analyse, ne communiquent plus. Il s'agit de remettre tout cela en route. Il s'agit de remettre en route un appareil à vivre qui s'est arrêté, pour ainsi dire, ou qui s'est empêtré lui-même, empêché lui-même. Voilà une idée. Moi, cette idée de la projection et de l'introjection me paraît une chose remarquablement profonde.
Bachelard peut écrire un livre qu'il appelle « Psychanalyse du feu ». On fait la psychanalyse de l'eau, on fait la psychanalyse des éléments, la psychanalyse des objets. Qu'est-ce que l'on entend au moment où l'on parle de la psychanalyse d'un objet et non plus de la psychanalyse d'un être?
Eh bien, je crois que cela est lié...
Cela est lié sur l'homme, néanmoins.
Oui, bien sûr. Cela est lié à une autre grande idée psychanalytique qui est l'idée du symbole. Il y a longtemps qu'on parle de symbole. Ce sont les Grecs qui ont... Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Platon qui raconte que chez les Grecs, le mot « symbole » servait à l'origine à désigner les deux morceaux d'un caillou que gardait l'hôte et celui qui avait reçu l'hospitalité. Quand un hôte était reçu chez quelqu'un, au moment où l'un et l'autre se séparaient, après l'hospitalité reçue, on cassait en deux un caillou et chacun en gardait une moitié. Et cette moitié de caillou, étant transmise aux descendants, permettait à des descendants lointains, par exemple, en rassemblant de nouveau les deux fragments du caillou, de vérifier que leurs ancêtres avaient bien eu cette relation d'hospitalité. Alors, cette très belle idée du symbole, on peut dire quand même qu'elle s'était dégradée au cours du temps et que quand Freud a repris la notion de symbole, il a eu à retrouver une notion très riche autrefois, mais qui s'était, dans la rhétorique, supposons, du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, qui s'était considérablement affaiblie. Un symbole, c'était une comparaison. Tandis que chez Freud, l'idée du symbolisme est une idée beaucoup plus riche. Un symbole, c'est un emblème, c'est beaucoup plus qu'un... Ce n'est pas un signe, autrement dit, c'est tout l'opposé d'un signe. Un signe, je ne sais pas, moi, la pancarte qui indique qu'une rue est à sens unique, cette pancarte, la façon dont elle est conçue, cette barre blanche sur un fond rouge, cette pancarte n'a aucune espèce de relation interne avec ce qu'elle désigne, c'est-à-dire un sens interdit. Ça aurait pu être, autrement dit, un signe tout autre. C'est une question de pure convention. Le symbole n'est pas conventionnel. Il a, avec ce qu'il désigne, une relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus profonde. Et c'est cette relation-là que Freud a mise en évidence d'une façon si neuve. Car toute son interprétation des rêves, toute cette manière d'analyser le rêve et d'y voir le symbole d'un certain contenu latent, tout cela suppose une conception très neuve, très ancienne aussi, si vous voulez, mais en tout cas très neuve au moment où Freud a écrit. Et alors, vous me demandiez ce qu'on entend par psychanalyse du feu, par exemple, dans le livre de Bachelard. À la lettre, n'est-ce pas, le symbolisme freudien, prise à la lettre, apparaît d'abord comme une relation qui existe toujours entre tout ce que nous voyons, vivons, pensons, disons, et la vie sexuelle. Enfin, tout est symbole de sexualité. En ce sens, c'est trois. Mais en réalité, je crois que dans Freud, les choses ne sont pas si simples. Car Freud lui-même dit que ce qu'on entend par sexualité ne doit pas être du tout compris au sens, ce qu'il entend par sexualité ne doit pas être compris au sens de génital. Le sexuel, dit-il, n'est pas le génital. Autrement dit, ce qui est sexuel chez lui, il ne faut pas se figurer que quand Freud pense que toute notre vie repose sur une infrastructure sexuelle, il suppose des pensées génitales, si vous voulez, ou des motifs d'ordre génital derrière tout ce que les hommes font. Alors, à partir de là, une idée de la sexualité moins précise, mais plus riche aussi. C'est pas l'éros, la libido, appelez-le comme vous voudrez, enfin le principe moteur de l'homme, n'est certainement pas, pour Freud, ce qu'on appelle l'activité génitale. C'est quelque chose de beaucoup moins précis et qui, justement, n'est pas précis au début de la vie, puisque l'enfant est dans une sorte d'ignorance du génital, est dans une sorte d'incapacité même, tout d'abord, de concevoir véritablement le génital. Et alors, cela étant, si vous prenez la psychanalyse ainsi, elle ne consiste pas tellement à dire que tout ce que nous vivons est sexuel, mais plutôt à dire que la sexualité, que rien de ce que nous vivons n'est tout à fait étranger à la sexualité. Autrement dit, qu'il y a un potentiel érotique dans beaucoup d'activités qui sont considérées à première vue comme tout à fait étrangères à l'amour. Et il est très certain, par exemple, que l'idée de ce qu'on appelle l'érotisme social, l'idée que que la vie politique et sociale comporte un certain potentiel érotique. Il me semble que cette idée est absolument indiscutable. Il suffit d'assister à une manifestation, il suffit, même sans assister à une manifestation, il suffit de vivre des événements un peu graves pour s'apercevoir que le genre de désarroi ou le genre d'émotion, le genre d'angoisse qu'on éprouve dans ce cas-là n'est pas sans parenté avec le fond le plus émotionnel, le plus rude, le plus simple, le plus rudimentaire de l'homme. Voyez-vous, l'étude de toute cette épaisseur de la vie psychique, voilà ce qui est le mérite de Freud. Vous savez, sa grande et toute simple devise qu'il donnait déjà dans l'introduction à la psychanalyse, les faits psychiques ont un sens. Ont un sens. Cherchez un sens partout. Voilà ce qui me paraît un de ses mérites tout à fait extraordinaire. C'est parce que si on compare par exemple ce que les psychologues nous disaient du rêve avec ce que Freud en a dit, même si certaines interprétations de rêve par Freud vous paraissent arbitraires, elles me paraissent à moi souvent arbitraires, mais je suis obligé de dire que c'est du moins quelque chose, tandis que avant Freud, qu'est-ce qu'on disait du rêve? On disait, je vous rappelle, Freud, je crois, cite lui-même cette opinion, le rêve était considéré comme quelque chose d'incompréhensible, sans logique interne, sans signification. C'était, disaient certains psychologues, comme un pianiste qui promène ses doigts au hasard sur un clavier, alors les notes viennent dans n'importe quel ordre. Ben, l'idée de trouver un sens, de chercher un sens évidemment secret, sans quoi on le saurait déjà, dans un ensemble tel que le rêve, voilà quelque chose d'enrichissant encore, il me semble, dans le freudisme.
Je me promène dans une ville que je ne connais pas. Je vois des rues et des places qui me sont étrangères. J'entre ensuite dans une maison où j'habite. Je vais dans ma chambre et j'y trouve une lettre de maman. Elle écrit que comme j'étais sorti à l'insu de mes parents, elle n'avait pas voulu m'informer que papa était tombé malade. Maintenant, il est mort. Et si tu veux, tu peux venir. Je vais donc à la gare et je demande peut-être 100 fois où est la gare. On me répond invariablement 5 minutes. Ensuite, je vois devant moi une épaisse forêt dans laquelle je pénètre et je questionne un homme que j'y rencontre. Il me dit encore 2h30. Il me propose de m'accompagner. Je vois la gare devant moi et je ne puis l'atteindre. Ensuite, je suis à la maison. Entre-temps, j'ai dû aller en voiture, mais je n'en sais rien. J'entre dans la loge du concierge et je le questionne au sujet de notre appartement. La femme de chambre m'ouvre et répond « Maman et les autres sont déjà au cimetière. »
Freud, 5 psychanalyses. Archive INA, 1959. Maurice Merleau-Ponty est interrogé par Georges Charbonnier.
Soit quelqu'un que l'on soumet à l'analyse, c'est parce que ce sujet, cet individu, n'est plus apte d'une façon quelconque à la vie sociale. La psychanalyse se propose-t-elle de le reconditionner à la vie sociale? S'il en est ainsi, elle se propose de le reconditionner à un état social considéré a priori comme parfait. Cela m'étonne.
Ah mais non, mais si vous définissez ainsi la psychanalyse, c'est que vous vous laissez guider par une conception, américaine de la psychanalyse. Reconditionner l'individu à la vie sociale, faire que l'individu soit en équilibre avec la société, ce n'est pas pour un psychanalyste de formation classique, ce n'est pas le but unique et ce n'est pas le but même principal. Un sujet qui se fait analyser est un sujet qui ne peut plus vivre dans sa société, c'est entendu, mais c'est aussi un sujet qui ne peut plus vivre en face de lui-même, qui est dans une impasse aussi bien personnellement que socialement, qui est par exemple...
Les deux étant liés,
bien entendu. Mais définir l'analyse par le rétablissement, la cure analytique par le rétablissement d'un rapport harmonieux entre l'individu et la société telle qu'elle est, ça, c'est une idée américaine. Je veux dire, c'est une de ces, enfin, quant à moi, je dirais une de ces déviations de l'analyse, qui se comprennent bien quand on regarde l'histoire de la psychanalyse depuis Freud, mais qui tout de même ne retiennent qu'un aspect de la psychanalyse, et au point de vue qui m'intéresse, au point de vue philosophique, peut-être le moins important.
Je le comprends bien, mais j'essaie de juger sur acte, sur pièce, sur le monde qui m'entoure, sur les circonstances. Et il me semble que c'est cela que je vois. Il ne peut plus vivre dans la société, on le replonge dans la société. Est-ce qu'on lui a rendu un tel service? Est-ce que, à l'occasion de la psychanalyse, autrement dit, ne se pose pas la question de la justice sociale, tout simplement, de l'organisation de la société, disons?
Mais il me semble que non. Il me semble que non. Vous dites, on le replonge dans la société. Il ne peut plus vivre dans la société, on l'y replonge. Mais il ne peut plus même vivre en face de lui-même, seul avec lui-même. Je suppose le sujet type, le sujet idéal. Je crois que les médecins analystes vous disent que une analyse est indiquée lorsque le sujet est absolument hors d'état de poursuivre son activité professionnelle, par exemple, mais plus généralement son travail. Lorsque sa vie est, pour ainsi dire, figée ou dans une impasse, comme vous voudrez dire.
Seul ou avec les autres,
pas
rien
seulement,
ne
marche. C'est cela, pas seulement dans les relations dites sociales, mais encore d'une façon générale.
Donc on se proposerait, si je comprends bien, on se proposerait d'abord de le remettre en accord avec lui-même.
Exactement, et la cure, si elle mais réussit, ne consiste pas simplement en ce que le sujet devient un sujet moyen de la société où il vit, hein, une espèce de citoyen modèle de cette société. Elle consiste avant tout, la cure, enfin l'effet thérapeutique, consiste à rendre le sujet capable de vivre, et de vivre aussi bien sa vie sentimentale ou passionnelle que sa vie dite sociale. L'analyste attend de la cure une sorte de bienfait dans la vie sociale du sujet, sûrement, mais c'est par surcroît en quelque sorte. Tenez, je crois qu'une chose éclaire tout, c'est l'évolution des idées de Freud lui-même sur la question de notre rapport avec la société, précisément. Dans les tout premiers ouvrages de Freud, je ne suis moi aussi qu'un lecteur, n'est-ce pas, je n'ai pas d'expérience personnelle de l'analyse, mais je remarque que dans les tout premiers ouvrages de Freud, le rapport de l'individu et de sa société était considéré comme une sorte d'antagonisme, car il y avait l'individu avec ses instincts et il y avait en face de lui une censure d'origine sociale qui s'oppose à l'expression de ses instincts. Voilà le schéma sur lequel, d'ailleurs, tout le monde vit, enfin beaucoup de gens vivent en ce qui concerne la psychanalyse. Et il me semble que, à mesure que l'œuvre de Freud avance, il s'aperçoit de quelque chose de tout à fait neuf par rapport à ses premières conceptions, à savoir que la censure n'est pas seulement exogène, elle ne provient pas seulement du dehors, elle n'est pas liée à la présence d'une société. Elle est intérieure. Nous avons intériorisé la société et c'est nous-mêmes qui nous faisons des reproches lorsque nous disons que la société nous fait des reproches. Voyez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, l'individu lui-même est divisé. Il y a sa face proprement individuelle et il y a sa face sociale, mais on ne peut pas dire que lui-même se définisse uniquement par ses instincts et ses pulsions. Voyez-vous? La société, du fait que, dans l'analytique, surtout à partir des essais de psychanalyse, du fait qu'il existe dans l'individu ce que Freud appelle un surmoi, c'est-à-dire un individu n'est pas seulement lui-même, il a, comment dirais-je, il s'est incorporé une autorité extérieure qui est généralement, qui peut être l'image paternelle, et qui est devenu un second lui-même. C'est pas le mot conditionné à la société, condition, ce mot est employé constamment aux États-Unis. C'est un mot qui ne vient pas du tout de Freud, c'est un mot qui vient de la psychologie objective. Vous vous rappelez l'étude des réflexes conditionnés telle qu'elle a été inaugurée par Pavlov et continuée par beaucoup d'auteurs aux États-Unis. Eh bien, il se produit un mélange là de l'inspiration psychanalytique et d'une inspiration psychologique tout autre. Et je dirais, moi, quant à moi, une sorte de corruption de l'inspiration analytique freudienne par des éléments qui sont d'une toute autre provenance.
L'autre n'est jamais loin. Et si l'on veut comprendre l'expérience humaine, il faut nécessairement en passer par une réflexion sur l'histoire et le politique. Mais comprendre ne veut pas dire juger au nom de principes abstraits, de valeurs idéales et universelles. Ce qui retient avant tout Merleau-Ponty, ce sont les relations vécues entre les hommes. Il ne veut pas non plus des oppositions brutales et tranchées, comme celle du communisme et de l'anticommunisme, par exemple. Le monde est indécis, inachevé, contingent, et le philosophe, comme en tout, doit rester ouvert à l'incertitude.
Tout mon raisonnement à moi n'est nullement conservateur, n'est-ce pas ? Je veux dire par là que je ne défends nullement les ordres établis sur tous les points dont vous avez parlé, absolument pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que je ne suis pas très étonné de trouver la société humaine ainsi faite, parce que je n'ai pas cette idée que l'homme est seul au monde. L'idée que le monde est au contraire affecté d'un certain poids, d'un certain coefficient, le monde humain, enfin la société humaine est affectée d'une certaine inertie, qu'elle a une tendance très spontanée à la stupidité ou à l'infamie, cette idée me paraît, enfin, depuis longtemps, depuis toujours, une idée évidente. Alors j'en conclus à la fois que il faut, dans tout ce qui dépend de nous, lutter contre, mais en même temps, je ne suis pas scandalisé. Et c'est pour ça que, pour ma part, je ne suis pas ce qu'on appelle un révolté. Parce que je ne peux pas dire que ça me scandalise. Je peux trouver ça horrible, intolérable, mais je ne peux pas dire que je sois scandalisé, parce que l'idée de scandale présuppose qu'on s'attendait à mieux, en quelque sorte, et que davantage plus d'égards nous étaient dus. Or, moi, j'ai toujours senti le monde, au contraire, comme un poids, comme une chose qui est là. Et ici, dans le parle-monde, j'entends pas seulement le monde naturel, mais l'appareil social aussi.
Signe.
Lisez Sartre. Par exemple, cette petite phrase qui pèse si lourd. Les mêmes raisons nous ôtent le bonheur et nous rendent pour toujours incapables d'en jouir. Veut-il dire les mêmes causes? Et que c'est une autre humanité qui sera heureuse, non celle-ci? Ce serait, comme Pascal, tout miser sur un au-delà. D'ailleurs, il dit les mêmes raisons. La chute n'est donc pas un accident. Les causes ont des complices en nous. Il y a égale faiblesse à ne s'en prendre qu'à soi-même et à ne croire qu'aux causes extérieures. D'une façon ou de l'autre, c'est toujours tombé à côté. Le mal n'est pas créé par nous ou par d'autres. Il naît dans ce tissu que nous avons filé entre nous et qui nous étouffe. Quels nouveaux hommes assez durs seront assez patients pour le refaire vraiment?
L'auteur de la nausée, par conséquent, qui passe à l'origine pour un auteur, mettons, porté sur la mélancolie, était au contraire un garçon extraordinairement vivant, actif et gai. Voilà les premières images que j'ai de lui. Mais je n'étais pas très lié pendant ces années-là avec lui. C'est beaucoup plus tard que je l'ai connu mieux et que je suis devenu son ami. Il est certain que même lorsqu'il a publié La Nausée, par exemple dans les années qui ont suivi nos études, nous avons fini nos études à peu près en même temps, dans ces années-là, je ne me sentais pas très près de sa pensée, je ne dirais pas de sa pensée. Quand il pensait en philosophe, ça m'intéressait toujours, mais l'ordre de sentiments, qui est le registre de sentiments qui est traduit dans La Nausée, m'était personnellement assez étranger. Et je me rappelle que c'est beaucoup plus tard, alors dans les années d'avant la guerre, que je l'ai revu et que, causant avec lui, je me suis senti beaucoup moins loin de lui. Et c'est surtout dans les années de la guerre, d'ailleurs, que nous nous sommes vus constamment. Il avait été fait prisonnier. Et il a donc été rapatrié comme sanitaire, puisque je crois que telle était la désignation officielle, vers la fin de l'hiver 40-41. Nous l'avons donc revu à Paris, je vois encore à quel endroit, c'était dans un café de la rue de la Gaîté, je crois, revenant de son camp de prisonniers, aussi allègre d'ailleurs et aussi en train et vigoureux qu'il avait jamais été en pleine paix. Je l'ai vu beaucoup à ce moment-là, et c'est à ce moment-là même que nous avons eu l'idée de faire une sorte de journal qui n'était pas diffusé très largement. Journal qui s'est intitulé, si mes souvenirs sont bons, journal clandestin bien entendu, qui s'est intitulé « Socialisme et liberté ». Je vous rappelle que ce titre avait été proposé par Sartre. Et il insistait sur le fait que le socialisme devait être absolument compatible avec la liberté. Il était à ce moment-là assez éloigné du marxisme, il n'a jamais été marxiste, même depuis, mais enfin, il était certainement très loin du marxisme à ce moment-là, beaucoup plus que maintenant. Pour vous en donner une idée, pour faire sentir à quel point il était loin, disons très en gros, loin du collectif, je me rappelle une conversation dans les années qui ont précédé la guerre, une conversation d'un instant, au cours de laquelle il avait dit quelque chose qui m'a fait songer beaucoup. Il m'avait dit à peu près ceci, je ne garantis pas les termes naturellement. Il m'avait dit à peu près ceci. Quand on parle d'un accident qui a fait 100, 200, 300 morts, c'est naturellement très émouvant et personne ne peut échapper à cette émotion. Mais quand on y pense, disait-il, qu'il y ait 300 morts ou qu'il y en ait deux, Ben pour chacun, c'est exactement la même chose. Le nombre n'a pas de signification. Eh bien, quand on pense comme cela, n'est-ce pas, on est aussi loin que possible, je dirais, du collectif. Ça veut dire qu'une collectivité d'hommes lui apparaissait toujours comme une somme de conscience, n'est-ce pas ? 10 hommes, ce sont 10 destinées, ce sont 10 vies. Chacune est en un sens autant que toutes les autres réunies, sans qu'on puisse les compter. On ne peut pas mettre des hommes les uns à côté des autres et les compter en disant ils sont 10. En un sens, il y a autant de réalité et de valeur dans une seule vie que dans 15 vies. Eh bien, ce raisonnement n'est généralement pas apprécié par les non-philosophes. L'autre jour, je me rappelle que j'entrais dans un cinéma et l'ouvreuse me plaçait. Et alors, en passant du côté où nous nous trouvions, il fallait faire lever 5 personnes. Et en passant de l'autre côté de la salle, à condition de faire tout le tour de la salle, on ne dérangeait que 2 personnes. Et l'ouvreuse m'a imposé ce très long détour. Alors je lui ai dit, sans bien entendu me fâcher, je lui ai dit, mais enfin, pour chacun, c'est tout pareil. Elle m'a regardé comme si je me moquais d'elle. Elle n'a absolument pas saisi cette idée de Sartre. C'est une idée, évidemment, strictement individualiste. Alors c'est assez frappant de voir que Sartre est parti de là. Dans les années d'avant-guerre, il était assez apolitique, n'est-ce pas ? Il s'intéressait guère à la politique, et si une politique l'intéressait, ça n'était pas le socialisme, ça n'était pas les politiques du collectif. Et alors, quand il est rentré en France, après la mobilisation, la campagne de France et la captivité, il n'avait pas changé, certes, il était bien le même, mais il y avait tout de même ceci, n'est-ce pas ? C'est qu'il lui apparaissait de plus en plus nécessaire de trouver un point de vue en philosophie d'où le collectif ne soit pas purement et simplement de l'irréel. Il lui apparaissait nécessaire d'intégrer à sa pensée de philosophe ce fait des relations avec les autres qui, au point de départ, était pour lui à peu près insignifiant. Et je crois que ce n'est pas naturellement le simple effet des circonstances, mais que les circonstances l'ont amené à penser ce problème du collectif. On ne peut pas se désintéresser du collectif quand on y est pris. Et quand on voit que la liberté même de l'individu ne se conçoit pas sans un certain contexte, d'où la nécessité de penser ce contexte et ses relations avec autrui qui jouent un rôle si fondamental dans l'être et le néant.
Il est essentiel à la liberté de n'exister qu'en acte.
Humanisme et terreur.
Dans le mouvement toujours imparfait qui nous joint aux autres, aux choses du monde, à nos tâches, mêlées au hasard de notre situation. Isolée, comprise comme un principe de discrimination, elle n'est plus comme la loi selon saint Paul qu'un dieu cruel qui réclame ses hécatombes. Il y a un libéralisme agressif qui est un dogme et déjà une idéologie de guerre. On le reconnaît à ceci qu'il aime l'empirer des principes, ne mentionne jamais les chances géographiques et historiques qui lui ont permis d'exister, et juge abstraitement les systèmes politiques sans égard aux conditions données dans lesquelles ils se développent. Il est violent par essence et n'hésitera pas à s'imposer par la violence selon la vieille théorie du bras séculier. La vraie liberté, au contraire, prend les autres où ils sont, cherche à pénétrer les doctrines mêmes qui la nient et ne se permet pas de juger avant d'avoir compris.
Si je me reporte à votre livre « Humanisme et terreur », comment pourrait-on très brièvement résumer votre dessin, exposer votre conclusion et rappeler comment l'ouvrage fut compris ou incompris ?
Dans le livre dont nous parlons, mon désir était de comprendre, comme le fait de la guerre, du fascisme et de l'occupation allemande nous avait mis au coude à coude avec des hommes qui pensaient ainsi, j'avais le plus vif désir de comprendre. Et ça a été mon intention dans ce livre. Mais, dans ce livre, puisque vous en avez parlé. Mais quant à moi, je n'ai jamais conclu comme eux. Seulement, il s'est produit avec ce livre une chose amusante, c'est que les lecteurs retiennent ce qui les flatte, ce qui leur fait plaisir. Ce livre a été lu par beaucoup de gens qui étaient, sinon communistes, du moins dans le voisinage. Il leur a plu de lire surtout les passages qui convenaient à leur tendance. Quant à ma conclusion, à moi, ils l'ont complètement laissé de côté. Et ma conclusion, je pourrais la montrer dans le livre, mais je me rappelle très bien que je l'ai tirée verbalement dans une conversation avec Sartre. C'est une chose que je n'aurais pas dite en public à ce moment-là, mais que je peux bien raconter maintenant. Je me rappelle très bien que nous parlions du livre qui était fini, qui venait de paraître, et j'ai dit à Sartre, « Ben, vois-tu, tout bien considéré, quand on On s'est un peu promené dans tous ces événements, les procès, le communisme. Il ne reste plus qu'à être radical. Radical dans le sens traditionnel en France, n'est-ce pas, c'est-à-dire membre du parti radical ou quelque chose de ce genre. Je vous rappelle que Sartre avait été très choqué par cette conclusion, mais enfin, c'était donc ma conclusion, voilà ce que je pensais. Et alors, chose amusante, j'ai su que des étudiants qui lisaient ce livre se représentaient l'auteur du livre comme perpétuellement torturé, hésitant à s'inscrire au Parti communiste, une question qui pour moi ne s'est jamais posée. Je n'ai jamais eu l'idée de m'y inscrire, et j'étais aussi calme que possible en faisant ce livre. Quoique certains lecteurs aient cru y voir une sorte de vertige, de tentation, il n'y avait rien de pareil. Il y avait un très vif désir de comprendre, ça oui. Pendant la guerre, j'avais lu du Marx, Lénine, Trotsky. J'avais un très grand désir de comprendre, et considérant le problème des procès de Moscou dont parlait Kessler dans Le Zéro et l'Infini, je désirais comprendre, comme tout le monde d'ailleurs, comment il se faisait qu'un accusé qui manifestement n'était pas coupable des choses qui lui étaient officiellement reprochées, pouvait néanmoins accepter sa condamnation et la motiver lui-même. Voilà la question que je me posais. Et alors ceci m'a amené à me demander pourquoi, après tout, comment un révolutionnaire peut concevoir la justice dans un régime qui est issu de la révolution qu'il a souhaitée. Qu'est-ce qui a valeur absolue pour un marxiste ? Ce ne sont pas des idées. C'est une réalité historique, l'État socialiste en train de se faire. Alors, on ne peut jamais, quand on est marxiste, on ne peut jamais, sauf dans les cas limites où il apparaît que l'État, le dit État socialiste, n'est plus socialiste du tout, on ne peut jamais condamner la réalité historique, le fait historique, au nom d'une valeur ou au nom d'une idée. Pour un marxiste, en principe, il n'y a pas à choisir entre la vérité et l'efficacité, entre le solide et le valable, parce que, en principe, un marxiste est attaché à une œuvre qui est à la fois les deux. C'est-à-dire l'État prolétarien qui est poussé, propulsé par la classe qui porte en elle l'avenir de toutes les valeurs humaines. Voilà le point de vue marxiste. Donc, en principe, il n'y a pas à choisir. Mais c'est le propre du stalinisme, c'est pas d'avoir transformé cette conception, qui est une conception synthétique, si vous voulez, dans laquelle il n'y a pas opté entre ce qui vaut et ce qui est, d'avoir transformé cette synthèse en une espèce d'alternative. Alors, ou bien vous obéissez, ou bien vous êtes un traître.
En 1953, Maurice Merleau-Ponty quitta la rédaction des Temps modernes, la revue qu'il avait fondée avec Jean-Paul Sartre en 1945.
À ce moment-là, dans l'esprit du public qui lisait les Temps modernes au moins, j'étais beaucoup plus près des communistes que Sartre. Et au contraire, dans la seconde période, pendant que Sartre se rapprochait de moi, j'ai été au contraire amené à penser que l'on ne pouvait pas se rapprocher d'eux pour des raisons simplement négatives. Au fond, il me semble que ce que Sartre ne voulait pas, c'est que la classe ouvrière fût mise hors circuit. Et d'autre part, ce qu'il ne pouvait pas accepter, c'est que l'on préféra le système occidental au système russe. Mais tout cela était négatif. Voyez-vous, c'était deux négations, en somme. Et toute la critique à laquelle il se livrait, à laquelle les Temps modernes se livraient, se livrent de la société occidentale, je suis absolument d'accord sur toute cette critique. Seulement, tout dépend de la valeur que l'on donne en regard à la société rivale, à l'autre société. Question que Sartre ne posait guère. Il exerçait son activité critique surtout, faute de documents d'ailleurs, il ne l'exerçait guère que sur le monde occidental. Ce qui ne me paraissait pas une raison suffisante pour prendre parti en faveur de l'autre monde, qui est pour nous à peu près un inconnu, il est un peu moins maintenant, mais enfin il l'était à ce moment-là tout à fait.
Cela a été tout de même jusqu'à la séparation.
Eh bien, comme je vous le disais, je jouais un rôle de rédactionnel au Temps moderne, je n'étais pas simplement un des collaborateurs, j'étais celui qui réunissait souvent des textes pour tout un numéro. Il arrivait nécessairement que nous n'étions pas d'accord sur le choix de tel ou tel collaborateur, de tel ou tel texte. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé qu'il était préférable, dans ces conditions, de ne pas poursuivre, parce que c'était absolument impossible. J'ai désiré mettre par écrit les motifs proches et lointains de notre opposition, et c'est ce que j'ai fait dans un livre publié en 1955, « Les aventures de la dialectique », livre où il n'est pas seulement question de Sartre, d'ailleurs, mais où il est question d'une appréciation générale du communisme. C'est ainsi que nous nous sommes quittés en tant que collaborateurs des Temps modernes, bien que nous soyons, bien entendu, rester les amis que nous étions. Alors, dans la suite, ben, vous devinez ce qui s'est passé. Il s'est passé que les événements de Russie, le 20e congrès, la déstalinisation et tous ces contre-coups, y compris les événements de Budapest, ont amené Sartre à rompre cette espèce d'unité d'action qu'il avait conclue. C'était plus qu'une unité d'action, d'ailleurs, en fin de compte. En 1952, c'était plus. Mais à plus forte raison, enfin, ces liens qu'il avait noués avec l'action communiste, il les a rompus. De sorte que il peut nous apparaître maintenant que tout cela est bien vain, puisque nous trouvons dans des positions comparables. Je ne crois pas néanmoins que ce soit vain. Je ne crois pas qu'il ne s'agit à ce moment-là que d'une divergence superficielle. Je crois qu'il y avait une différence fondamentale dans la manière de concevoir le choix politique. C'est pas, nous avons toujours été, enfin, Sartre a toujours eu une certaine conception, disons, des relations de la liberté et de la situation, comme il dit dans son langage philosophique. Et je me rappelle très bien que, bien avant les temps modernes, dans la période de la guerre, nous avons eu une conversation un jour avec un garçon qui a quitté la France d'ailleurs, qui s'est établi aux États-Unis, une conversation politique, c'était au cours de nos activités politiques du moment que cette conversation a eu lieu. Et je me rappelle fort bien que j'avais dit à ce garçon, parce que c'était ce que je pensais, moi ce qui m'intéresse en philosophie, c'est le conditionnement de l'esprit, c'est le lien de l'esprit avec le reste, avec le corps, avec la société, avec le tout social. Et non pas, je n'ai jamais conçu l'esprit comme étant, si vous voulez, le négatif, pendant que le corps, la société, le monde seraient le positif. C'est toujours le lien de l'être et le néant, si vous voulez, ou le mélange de l'être et le néant qui m'a intéressé. Et je me rappelle qu'en sortant de cette réunion, quand nous étions retrouvés seuls, Sartre m'avait dit « Mais tu as fait bien des concessions à ce marxiste en parlant comme tu l'as fait. » Je lui dis « Non, non, je n'ai pas fait de concessions, c'est vraiment ça qui m'intéresse. » Et c'est dire que Sartre me croyait avec lui plus d'accord que je n'étais dès ce moment-là. Et sa philosophie était à ce moment-là, et est restée dans une large mesure dans la suite, très solidaire de la position cartésienne du cogito. L'esprit, évidemment, l'esprit ne peut s'accomplir que dans le monde, la liberté, nous disions tout à l'heure, ne peut s'accomplir que dans l'engagement, mais si on peut dire, si on peut le penser en lui-même, l'esprit, si on peut la penser en elle-même, la liberté, sont, pour ainsi dire, en face du monde et non pas liées au monde. L'idée de lien est une idée qu'il n'aime pas. Dans l'être et le néant, je me rappelle très bien qu'il dit « La liberté ne rencontre pas d'autres obstacles que ceux qu'elle pose elle-même. » Il y a là, dans la liberté, l'esprit, quelque chose d'absolument insaisissable. Et alors, c'est cette conception des relations, vous voyez que c'est en somme de la pure philosophie, et c'est donc lié aux éléments les plus personnels, comme il arrive toujours en philosophie. C'est la façon d'être fondamentale.
Oui, ce sont les positions instinctives qui apparaissent là.
Oui.
Les positions naturelles.
Qui sont élaborées, exprimées directement ou indirectement, c'est elles qui jouent. Et sur ce point-là, il est évident que j'ai toujours été très différent de lui. Et je crois que
c'est cela qui s'est traduit. En vous écoutant parler, je me disais que c'était la physiologie de deux hommes qui se heurtaient.
Oui, mais il en est toujours ainsi. Naturellement, on met généralement des masques, c'est-à-dire on préfère, chacun préfère déduire ses doctrines de prémices tout à fait intemporelles, comme si il n'avait pas de passé, comme s'il n'avait pas d'enfance, comme s'il n'avait pas de vie préalable. Mais à mon avis, d'ailleurs, cet enracinement de nos idées dans notre passé, dans notre situation de départ, cet enracinement n'ôte absolument rien à ces idées, à la valeur de ces idées. Puisque nous en sommes tous là, n'est-ce pas ? L'argument que l'on peut tirer contre une idée du fait qu'elle dépend d'un caractère, comme on peut l'appliquer à n'importe quelle idée, cet argument ne nous permet pas de choisir ni de décider, n'est-ce pas ? Voilà comment m'apparaît cette histoire des temps modernes, dans la mesure où j'y ai été associé.
Ainsi, vous renoncez à être révolutionnaire, vous consentez à cette distance sociale qui transforme en péché véniel l'exploitation, la misère, la famine.
Je n'y consens ni plus ni moins que vous. Un communiste écrivait hier « Il n'y aura plus d'octobre 17 ». Sartre dit aujourd'hui que la dialectique est une fadaise. un marxiste de mes amis que le bolchevisme déjà ruinait la révolution et qu'il faut mettre à sa place l'imprévisible invention des masses. Être révolutionnaire aujourd'hui, c'est accepter un état dont on ne sait presque rien, ou s'en remettre à une grâce de l'histoire dont on sait moins encore, et tout cela non plus n'irait pas sans misère et sans larmes. Est-ce donc tricher que de demander qu'on vérifie les dés ?
Les aventures de la dialectique.
Le livre n'a pas un caractère abstrait, il a un caractère, il n'est pas facile à lire, mais je veux dire par là qu'il a un caractère presque anecdotique, je veux dire par là que je parle de différents épisodes de la pensée marxiste, en essayant de relier ces faits, les faire entrer en combinaison pour aboutir à une conclusion. Alors la ligne du livre n'est peut-être pas pour cette raison parfaitement claire. Enfin, en gros, l'idée, c'était que la pensée marxiste a subi, à mesure que l'on approche de la date où nous sommes et à mesure qu'on s'éloigne des origines de Marx lui-même, a subi une transformation. C'est là ce que j'appelais les aventures de la dialectique. La dialectique, vous savez que c'est le mot favori des marxistes, et pas seulement des marxistes, la dialectique a des titres philosophiques très éminents, puisque ça remonte à Platon et que l'on retrouve cette notion chez beaucoup de philosophes. Mais la dialectique marxiste, enfin, comme toutes les dialectiques, peut-être, c'était initialement une conception qui vise à dépasser les alternatives. Le mot de dépasser est un terme spécifiquement de philosophie dialectique. Il s'agit toujours de dépasser des oppositions. C'est donc une conception synthétique, si vous voulez, en gros. Ce n'est pas une conception dans laquelle on oppose une thèse à une antithèse, c'est une conception dans laquelle on tâche d'aller au-delà de leur opposition. Naturellement, dans la pensée marxiste, pour aller au-delà...
Est-ce qu'il n'y a pas là... c'est un espèce de surréalisme philosophique.
Oui. Mais vous savez que quand Breton a écrit, je crois que c'est dans le premier manifeste...
Dans le premier manifeste.
Il y a une formule dont je me suis servi, justement, dans les aventures de la dialectique. Il l'indique dans un passage, il me semble que le propre d'une conception révolutionnaire est de trouver ce point sublime, disait-il, d'où le terme de point sublime est, je crois, un terme ésotérique, un terme assez connu dans la pensée ésotérique et occultiste presque. Point sublime, d'où, disait-il, le passé et l'avenir...
Toutes les contradictions soient résolues.
Voilà, je cite de mémoire, c'est à peu près ça. Eh bien, il est certain que la pensée marxiste, en principe, suppose quelque chose de ce genre. Seulement, quel est ce point sublime d'où les contradictions sont dépassées? Eh bien, c'est l'avenir révolutionnaire. Et alors, il me semblait qu'à mesure que le temps passait, à mesure que la pensée marxiste vieillissait, on assistait au phénomène suivant. De moins en moins, la pensée dialectique était une pensée qui va vers le dépassement des oppositions, et au contraire, certaines oppositions s'accentuaient de plus en plus, devenaient de plus en plus catégoriques. Des affaires comme celle des procès de Moscou sont un exemple de ce que je dis là. C'est-à-dire vraiment, on donne à l'accusé et au public, dans la mesure où il s'identifie à l'accusé, on le met en demeure de choisir, n'est-ce pas ? Ou bien vous gardez votre liberté de jugement, mais alors vous êtes un traître, ou bien vous êtes fidèle, et alors il ne faut pas garder votre liberté de jugement. Bref, deux valeurs qui, en principe, devaient être intégrées, n'est-ce pas ? Devaient être, grâce à la forme proprement révolutionnaire de la société, ces deux valeurs restent en opposition et on invite les gens à choisir entre elles. Et alors, c'est amusant parce que, pour un philosophe, parce que il y a des philosophes qui ont toujours pensé qu'il n'y avait pas moyen de dépasser les contradictions. C'étaient les premiers existentialistes. Kierkegaard, par exemple, au XIXe siècle, vous vous rappellerez sûrement que ce que Kierkegaard opposait à Hegel, c'était qu'on ne pouvait pas arriver à la synthèse, qu'on ne pouvait pas dépasser les contradictions. On se trouvait toujours en face d'une option qui exigeait qu'on prît croix ou pile, blanc ou noir, sans pouvoir garder les deux. Ce qui est la pensée dialectique même. Vous savez que l'expression est de Platon. Dans l'ordre du vécu, dans l'ordre de... enfin, ce que Hegel appelait la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire l'histoire de l'esprit tel qu'il se manifeste dans l'histoire humaine, on trouve constamment ce mouvement. N'est-ce pas ? Une position quelconque entraîne une position opposée, et puis il s'agit de dépasser, c'est-à-dire de détruire en conservant. C'est la formule hegelienne, vous savez. Un seul mot allemand exprimant les deux choses, le mot aufheben, qui signifie à la fois détruire et conserver. Ce qui est traduit en français à peu près par le mot dépasser. Le dépasser, c'est ça. C'est garder tout en supprimant. Pour revenir à ce livre sur lequel vous avez la bonté de m'interroger, mon idée était que, précisément, la pensée dialectique avait subi une dégradation véritable, n'est-ce pas, étendait à cesser d'être une pensée dialectique. Précisément parce que l'élément de dépassement, de synthèse, était à peu près effacé. Et que ce qui se présentait à nous aujourd'hui sous le nom de marxisme était plutôt une doctrine antithétique. Vous savez, déjà dans le premier livre, le titre « Humanisme et terreur » voulait dire qu'il y a dans le marxisme un humanisme, comme ça se trouve dans les mots même, enfin il y a des textes de Marx là-dessus, et en même temps la terreur. Les marxistes sont des gens qui sont à la fois humanistes et qui acceptent la terreur révolutionnaire. Eh bien, au fond, le problème était le même, mais repris, à mon avis, plus profondément dans le second livre. Est-ce que l'élément de terreur, est-ce que l'élément pathétique, l'élément d'option brutale entre le oui et le non, n'a pas été suraccentué par l'histoire du marxisme, et est-ce que le premier élément ne tend pas à disparaître? Voilà la question que je posais. Et alors, la discussion avec Sartre intervenait sur cette base-là, car il me semblait que, sans être marxiste le moins du monde au sens classique, Sartre en venait à se rapprocher des marxistes, précisément parce que sa philosophie du choix, de l'option, convenait à ce que le marxisme est devenu aujourd'hui. Voyez-vous ce que je veux dire? Il se serait produit une espèce de mutation du marxisme qui l'aurait fait se rencontrer avec des conceptions de la décision et du choix plutôt apparentées à Kierkegaard, en réalité, de sorte que l'existentialisme marxiste, tel que je le voyais à ce moment-là, m'apparaissait comme absolument impossible, comme quelque chose un produit historique, évidemment, réel, existant, mais non pas solide. Et c'est là ce que j'ai essayé de montrer alors, dans le chapitre sur Sartre, dans le même volume. Alors, le volume comportait ce que j'appelais un épilogue, c'est-à-dire que j'essayais de dire, eh bien, quand tout cela est dit, que conclure? Alors, la conclusion n'était pas une conclusion enthousiasmante, mais je ne sais pas qui a, à l'heure qu'il est, des conclusions enthousiasmantes à proposer au monde. La conclusion, c'était que, en somme, il y a, à mon sens, un échec politique et un échec philosophique du marxisme qui tient à ce que le marxisme a cru que l'on pouvait réaliser dans un fait historique tel que le prolétariat toutes les valeurs humaines et réaliser dans un second fait historique qui est le parti toutes les valeurs du dit prolétariat. Cette espèce de réalisme qui fait qu'on bloque sur le prolétariat comme facteur historique et sur le parti comme représentant du prolétariat l'ensemble des valeurs humaines, c'est cette pensée, cette manière de penser qui s'appelle matérialisme historique, enfin, qui me paraissait être, ou qui en tout cas présuppose le matérialisme historique, qui me paraissait être mise à l'épreuve par les faits présents. Alors, j'indiquais que pour ma part, dans ces conditions, je ne voyais pas d'autre manière que de me replier provisoirement sur les conceptions de la démocratie parlementaire, non pas du tout que je les considère comme suffisantes pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Suffisantes, sûrement pas. Mais ce régime m'apparaissait simplement comme le seul régime dans lequel il puisse y avoir une opposition. Comme l'existence d'une opposition est absolument nécessaire à la vie et à la vérité d'un système politique, sans quoi il devient sclérose, il devient pur appareil, il me semblait que c'est sur cette position de méthode que l'on devait se replier jusqu'à ce qu'on ait mis sur pied une autre pensée politique et une autre philosophie politique.
Dans la politique comme dans la connaissance, montre que le règne d'une raison universelle est problématique, que la raison comme la liberté est à faire dans un monde qui n'y est pas prédestiné. Les hommes préfèrent oublier l'expérience, laisser là la culture et formuler solennellement comme des vérités vénérables les pauvretés qui conviennent à leur fatigue. Un innocent est un innocent, un coupable est un coupable, le meurtre est un meurtre. Telles sont les conclusions de 30 siècles de philosophie, de méditation, de théologie et de casuistique. Il serait trop pénible d'avoir à admettre que d'une certaine façon les communistes ont raison et leurs adversaires aussi. Le polythéisme est trop dur. Ils choisissent donc le dieu de l'Est ou le dieu de l'Ouest. Et c'est toujours ainsi, justement parce qu'ils ont pour la paix un amour de faiblesse. Les voilà tout prêts pour la propagande et pour la guerre.
Humanisme et terreur.
La pensée politique et l'action sont depuis des années bloquées, gelées par la rivalité du communisme et de l'anticommunisme. L'histoire a connu bien des luttes et en connaîtra d'autres. Celle dont nous parlons a ceci de particulier, que les antagonistes en sont venus à former comme un seul système en lutte avec lui-même. Dans nos discussions politiques, chacun justifie surtout ses préférences par l'état du régime rival, chaque position n'est presque que la négation de l'autre. Qu'aurait fait le sénateur McCarthy si la Russie de Staline n'avait pas existé? Et quel argument la critique communiste a perdu quand le sénateur s'est effacé de l'horizon politique? J'ai écrit Les aventures de la dialectique pour essayer de dénouer ce nœud, autant qu'il appartient aux philosophes de le faire. Les idées officielles de l'Occident sont celles du libéralisme à l'ancienne. La société est faite de citoyens égaux, à qui les mêmes problèmes se posent dans les mêmes termes, et qui donc peuvent les résoudre par échange de vues et décisions raisonnables de la majorité. En fait, nous savons tous que les problèmes de ceux qui gagnent le minimum vital ne sont pas les problèmes des autres, et que même s'ils sont en minorité, ils ont raison en ce qui les concerne contre la majorité. Le système libéral n'existe que si les citoyens sont placés dans des situations comparables. À moins que des chances géographiques et économiques exceptionnelles rendent suffisante pour chacun la part du revenu national qu'il reçoit, l'égalité n'est que nominale et le libéralisme qu'une idéologie. Si les Occidentaux aiment mieux parler du régime communiste que du leur, c'est qu'ils piétinent devant ces problèmes. Question agraire en Italie, problème du malthusianisme dans l'économie française. L'anticommunisme vient à point pour tenir lieu de politique quand on ne se sent pas en mesure d'en avoir une. De son côté, il m'a semblé que la Révolution connaissait une crise. Elle s'était proposée de mettre dans tous les pays le prolétariat au pouvoir et de transférer entre ses mains la gestion de l'économie, parce que le prolétariat, classe universelle, disait Marx, porteur des intérêts humains les plus généraux, était en mesure de fonder la société vraie, celle qui est faite pour tous et n'est plus déchirée par les contradictions. Ceci supposait notamment que dans les pays avancés, où il est préparé par sa qualification et sa maturité au rôle de classe dirigeante, le prolétariat prit le pouvoir et le conserva. Or, il ne l'a pris que dans des pays sous-développés, où d'ailleurs la question n'est pas seulement de savoir qui gérera l'appareil économique, mais d'abord de le construire. La Révolution est donc devenue un système bien différent de la société révolutionnaire que Marx entrevoyait à l'horizon de son temps. Elle a créé une autre stratification sociale, un autre type d'État. Elle s'est délivrée de toute opposition politique et rien ne permet de présumer qu'elle s'oriente jamais vers la société homogène et transparente à laquelle les marxistes pensaient. C'est un autre système qui, là où il est, a certainement ses mérites. Ce n'est pas la société, la solution, le terme commun de toutes les civilisations et la fin de l'histoire. Il est probable que les héritiers de la Révolution d'octobre ne s'en sont pas aperçus d'abord. Il est sûr en tout cas qu'ils ne le disent pas. Ils enseignent toujours que le communisme va vers la société universelle et homogène en remettant le pouvoir à la classe prolétaire. En fait, les représentants du prolétariat gouvernent pour lui, en son nom, plutôt qu'avec lui, et de ce fait même, créer pièce à pièce une société différente de ce qu'elle pensait être. Si la presse communiste nous en apprend plus sur l'état du capitalisme que sur le fonctionnement réel du communisme existant, si ce fonctionnement est tenu secret, c'est sans doute qu'il est assez différent des perspectives marxistes. Communisme et anticommunisme sont solidaires dans leur antagonisme parce qu'il y a entre eux l'apparenté de deux systèmes qui ne peuvent se penser ouvertement tels qu'ils sont. Que chacun donc en est réduit à se défendre par la réfutation de l'autre et a besoin de son ennemi pour se justifier. La crise de l'idéologie libérale et celle de l'idéologie révolutionnaire paraissaient condamner les deux systèmes à l'inconscience et à la guerre. On sait qu'en quelques mois, la situation politique s'est transformée. Le gouvernement soviétique a pratiqué la détente au-dedans et au-dehors. Les habitudes de la politique dure ne s'effacent pas si vite. Et beaucoup d'anticommunistes, beaucoup de communistes, une fois de plus complices, disent qu'il ne s'agit que d'une autre tactique. En fait, Le gouvernement soviétique, quand il le voudrait, peut difficilement maintenir dans les limites d'un changement tactique une politique qui réhabilite les opposants, transige sur la discipline et envisage la collaboration avec le capitalisme à l'échelle mondiale. Une politique de coexistence active, comme celle vers laquelle il s'oriente, signifie en fait qu'il renonce à centraliser la révolution mondiale, à faire valoir les droits du communisme comme solution universelle, qu'il prend conscience de sa destination particulière et admet pour un temps indéterminé l'existence et la solidité de l'autre système. Tout se passe comme s'il avait constaté cette solidarité du communisme et de l'anticommunisme dont nous parlions en commençant, et comptait désarmer l'anticommunisme en mettant fin à la guerre froide. Un philosophe n'a aucune qualité particulière pour présenter des thèses sur ce sujet. Il lui revient seulement, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, de dire que la perspective historique n'est pas bouchée, ni réduite à l'alternative de la révolution et du chaos libéral. Que la pensée dialectique, cette manière profonde de dépasser les contradictoires en conservant la vérité qu'ils contiennent, n'a pas donné toute sa mesure dans la révolution, et qu'il lui reste à inspirer, à inventer, une politique de la liberté réelle.
Maurice Merleau-Ponty, 1959.
Ce qu'il y a, c'est que, et qui est certainement propre aux philosophes, c'est que, enfin, tout le monde l'a toujours dit, les philosophes ne sont pas les hommes des opinions tranchées. On dit même souvent que ils sont incapables de prendre un parti et qu'ils sont incapables de prendre parti. Et il y a quelque chose de parfaitement vrai là-dedans, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, ne condamne absolument pas la philosophie. Ce qui est frappant, c'est de voir comment un même auteur, mettons Marx par exemple, qui était, comme vous le savez, quelqu'un qui prenait parti, quand il s'abandonne à son don philosophique, il arrive à s'exprimer d'une manière qui n'est jamais partisane. C'est frappant dans Marx. Si vous prenez les conclusions de Marx, elles sont aussi catégoriques que possible. Mais si vous prenez la substance philosophique de Marx, alors les mêmes conclusions sont entourées de tout un halo de considérations. Voici ce que je veux dire. Enfin, Marx avait sur l'issue de l'histoire humaine, le sens de la société humaine, des vues que tout le monde connaît, ou soupçonne en tout cas. Et ces vues étaient des vues parfaitement antithétiques, n'est-ce pas ? Il y avait un bien, si vous voulez, qui était le socialisme, ou la société socialiste communiste, et il y avait un mal qui était le capitalisme. Ça, ce sont en gros les conclusions. Mais bien entendu, quand vous regardez de près, et quand vous regardez surtout le Marx total avec sa philosophie, les choses ne se présentent pas si simplement. Car le capitalisme, c'est le mal, mais ce n'est pas le mal absolu pour Marx. Par rapport à ce qui a précédé, le capitalisme est un progrès pour Marx, c'est progressif. Et même en un sens, tout ce qui suivra le capitalisme s'y dessine déjà. Si bien que il y a une double appréciation du capitalisme, à la fois comme progrès humain, chez Marx, et en même temps, comme, dans la mesure où il a épuisé ses vertus et où il devient décadent, comme empêchement au progrès humain. Autrement dit, nous arrivons à une notion balancée, dialectique, si vous voulez, du capitalisme, où le capitalisme apparaît à certains égards comme une valeur, comme progressif, et à certains égards, au contraire, comme facteur d'inhibition pour l'histoire humaine. Alors, ça n'empêche pas que dans la pratique, Marx conclut « je suis contre le capitalisme », mais quand il dit contre, c'est pas, il ne faut pas oublier tout l'arrière-fond, tout le surplus dont il ne parle pas à ce moment-là. Or, ce surplus va intervenir dans l'action, car dans l'action, c'est exactement la même chose. Un philosophe comme Marx est en principe parfaitement résolu sur ce qu'il faut souhaiter ou ne pas souhaiter. Mais dans chaque cas concret, il se demandera, en prenant cette position, est-ce que je favorise vraiment le développement de l'histoire humaine ou au contraire, est-ce que mon intervention va avoir un rôle provocateur et appeler au contraire une rétrogradation ? Alors, je trouve frappant le cas de Marx, parce qu'il était philosophe, je veux dire, il aimait la philosophie, il en était pétri, on le sent très bien en le lisant. Et il était cependant un homme fort résolu, par ailleurs. Eh bien, c'est assez frappant de voir que quand il donne ses formules d'action, elles sont nécessairement catégoriques, et quand il les motive philosophiquement, elles le sont beaucoup moins. Ceci annonce par conséquent, en effet, une espèce de distance entre la philosophie et la prise de position parfaitement nette, parfaitement précise. Même quand le philosophe est catégorique sur ses conclusions, les motifs pour lesquels il les conduit à ses conclusions sont toujours plus complexes, moins simples, et donc ses convictions elles-mêmes beaucoup moins simples et simplistes qu'il n'apparaît au premier regard. Et alors ça crée une distance entre lui et un homme qui prend des positions purement passionnelles, n'est-ce pas ? Enfin, l'adversaire, tel que le définit la politique marxiste, est en même temps profondément compris par cette politique marxiste. Il y a un effort pour le comprendre. De grands auteurs marxistes comme Trotsky, Lénine, ont quelquefois une façon de parler des grands hommes de la société bourgeoise, quand il s'agit vraiment de grands hommes, avec une espèce de... Ils les comprennent profondément. Il y a une espèce d'appréciation positive là derrière, n'est-ce pas ? Et cela tient à ça. Tandis que l'homme qui adopte simplement les conclusions du marxisme et qui s'en tient là et qui passionnément les affirme, trouvera certainement que le philosophe ou le marxiste philosophe n'est pas tellement franc de collier. Il le trouvera quelquefois un peu ambigu, un peu équivoque, et il traduira cela en disant que les intellectuels sont des traîtres. Ce qu'on entend dire couramment, même en dehors des cercles marxistes. Il y a quelque chose de fondé là-dedans, mais il faut dire une chose, c'est que sans ce qu'on appelle la trahison, il n'y a pas de culture.
La misanthropie aura toujours tort parce que les vices de la politique tiennent en fin de compte à ce qu'il y a de plus valable chez les hommes, à leur idée de la vérité. Celui qui a vu quelque chose et le croit vrai, il le croit vrai pour tous. Si les autres ne le voient pas, c'est qu'ils sont fanatiques, c'est qu'ils ne jugent pas librement. Ainsi, l'homme libre fait de ses évidences la mesure de toute chose, et le voilà fanatique au moment où il se plaint du fanatisme des autres. Mais après tout, si chacun se mêle des affaires des autres, s'il se substitue à eux, c'est aussi parce qu'il se met à leur place, parce que les hommes ne sont pas l'un à côté de l'autre comme des cailloux, et que chacun vit en tous.
Archives INA, 1952. Maurice Merleau-Ponty.
Je sollicite maintenant sur un point particulier l'opinion de M. Merleau-Ponty, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de philosophie. M. Merleau-Ponty, la notion d'engagement est-elle, à votre avis, une des valeurs originales de la philosophie actuelle, ou répond-elle à une mode et à une forme passagère de l'évolution intellectuelle et sociale ?
Eh bien, votre question est embarrassante, parce que elle est, je crois, pleine de malentendus qui ne sont pas votre fait à vous, bien entendu, mais qui tiennent à la façon dont cette notion d'engagement a été introduite dans l'usage courant, et à la manière aussi dont on la comprend d'habitude. Il est bien certain que si nous prenons ce mot dans le sens que lui donnaient ceux qui s'en sont servis tout d'abord, c'est-à-dire Mounier, autrefois, dans sa revue Esprit, dès son début, et ensuite Sartre, il n'a jamais été question dans leur esprit de comprendre l'engagement comme une option entre les partis intellectuels et politiques existants. Si je voulais raconter une anecdote, je pourrais en raconter une qui a trait à la fondation de la revue de Sartre, Les Temps modernes. Je me rappelle qu'en 1945, quand cette revue a été fondée, au même moment où Sartre définissait ce qu'il appelait la littérature engagée, il nous demandait à tous ceux qui l'assistaient dans la fondation de cette revue, de n'appartenir à aucun parti. C'est vous dire comme l'idée d'engagement était loin de se confondre pour lui avec l'adhésion à l'une des opinions régnantes ou établies. Il y a un deuxième malentendu sur cette notion d'engagement qu'il faut aussi écarter, je crois. On s'imagine souvent que lorsque l'on recommande à la philosophie d'être engagée, on lui recommande en même temps d'abandonner son appareil technique pour remplacer la philosophie au sens traditionnel avec ses discussions conceptuel par un mode de pensée plus littéraire et plus immédiatement accessible. Eh bien, je crois que c'est un fait à constater que Sartre, par exemple, dont nous parlons, n'a pas du tout renoncé à cet appareil technique, puisque, comme vous le savez, L'être et le néant est un ouvrage fort abstrait et fort difficile. Alors, je crois que le seul sens dans lequel sérieusement les initiateurs aient pris cette notion d'engagement, ce serait le suivant. Ils entendent par philosophie engagée tout simplement une philosophie qui ne
définit et ne préconise pas une valeur sans la mettre à l'épreuve des situations concrètes dans lesquelles elle est destinée à se manifester. Alors, en prenant le mot dans ce sens-là, je pourrais essayer de répondre à votre question. Je ne crois pas que l'engagement pris dans ce sens-là soit une mode passagère, et je ne crois pas non plus d'ailleurs qu'il soit une invention moderne. En un sens, on pourrait dire que l'engagement a toujours été pratiqué par la grande philosophie. Il a été pratiqué sous la forme d'une action du philosophe. Les présocratiques, qui faisaient du philosophe un prêtre et un chef d'État à l'occasion, Socrate, les stoïciens, Montaigne dans un certain sens, Leibniz même, puisqu'il a été mêlé à des négociations pour l'organisation religieuse de la Terre, Spinoza, puisqu'il a fait des actes publics, en tout cas, il a écrit des graffitis qui étaient destinés à stigmatiser des hommes d'État qui lui déplaisaient, les philosophes du XVIIIe siècle, Marx, bien entendu, Alain plus récemment, tous ces philosophes-là ont toujours admis qu'on ne pouvait pas être philosophe sans le marquer par certaines actions. Et quand les philosophes n'allaient pas jusque-là, quand ils se contentaient d'écrire des livres, ce qui est déjà beaucoup, ces livres étaient toujours, ou en tout cas très souvent, consacrés à l'action. Toutes les grandes philosophies comportent une politique. Il y a une politique de Platon, il y en a une et même plusieurs de Hegel, et je n'ai pas besoin de donner d'autres exemples. Le propre du philosophe n'est donc pas de ne s'intéresser pas à l'action ou à la politique, c'est, comme disait Alain, de n'en pas tirer profit. Le philosophe est celui qui s'intéresse à ces choses, d'une certaine manière avec plus d'acuité que les autres, peut-être, mais il n'en tire pas profit. Donc il y a toujours eu, dans la grande philosophie, engagement. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi, dans ces conditions-là, a-t-il été possible et nécessaire de réintroduire cette notion d'engagement il y a 20 ans ou il y a 5 ans, comme si c'était une nouveauté. Eh bien, parce que, entre-temps, entre la grande philosophie dont je parlais et nous, s'est établie une tradition qui n'est pas une tradition philosophique, qui est plutôt une tradition universitaire d'origine récente, tradition qui voulait que le philosophe s'exprime dans des thèses, tradition qui voulait que le philosophe s'exprime dans des ouvrages uniquement abstraits. Platon écrivait des dialogues et aujourd'hui nous publions des thèses. Et alors, il en est résulté une certaine conception de la bienséance académique, qui veut que certaines questions ne soient jamais évoquées sous la forme où elles se posent à la plupart des hommes. Alors, c'est là une tradition, je le disais, qui n'est pas tellement philosophique. En un sens, elle est assez inhumaine, parce qu'elle signifie que la philosophie tend à devenir une spécialité. Et je crois que l'existence de cette tradition justifie à la fois l'emploi d'un mot comme le mot d'engagement, pour rappeler le philosophe à son devoir, sans qu'on puisse dire que cette notion d'engagement est toute neuve.
Mais quelle explication pouvez-vous donner de l'attitude de nombreux penseurs contemporains qui cherchent à travers les disciplines du roman, du théâtre et peut-être du cinéma à développer et à faire connaître leur conception philosophique?
Vous savez, là encore, il y a beaucoup à dire. Premièrement, il y a à remarquer ceci, que même les philosophes parmi nos contemporains qui s'expriment par la littérature ne s'expriment jamais par la littérature seule. Gabriel Marcel fait des pièces de théâtre, mais il fait aussi des écrits philosophiques. Et il en va de même pour Sartre. En outre, il faudrait se demander si c'est vraiment la philosophie qui va à la littérature ou s'il n'y a pas aussi un mouvement de la littérature vers la philosophie. Et depuis Mallarmé, je cite des noms en vrac, depuis Mallarmé, depuis Proust, depuis Gide, depuis le surréalisme, la littérature est d'elle-même devenue philosophique ou philosophie. Il s'agirait donc plutôt d'un contact pris entre les deux recherches plutôt que d'une subordination de l'une à l'autre. Et quand je dis un contact pris, je pourrais redire ce que je disais tout à l'heure, un contact repris. Au moment du romantisme allemand, il n'y avait pas entre la littérature et la philosophie cette espèce de séparation bienséante, encore une fois, que nous établissons aujourd'hui. Hegel, par exemple, lisait le neveu de Rameau de Diderot, et même, disons plus anciennement, que Descartes ne croyait pas déchoir en faisant le scénario d'un ballet, tandis qu'aujourd'hui, si l'un de nous, professeur de philosophie, écrivait le scénario d'un ballet, bien on dirait qu'il déchoit. Eh bien, ma foi, je ne recommande à aucun philosophe d'écrire des ballets, mais je crois qu'il y a quelque chose de significatif dans cette espèce de pudibonderie de notre philosophie et de notre littérature pendant tant d'années. Et si on le comprend ainsi, le rappel à l'union me paraît une chose heureuse, même s'il s'accompagne des malentendus que j'ai tout à l'heure essayé de dissiper.